La première loi fondamentale du capitalisme, alpha égale R multiplié par bêta. Nous pouvons maintenant présenter la première loi fondamentale du capitalisme qui permet d'associer le stock de capital au flux de revenus du capital. Le rapport capital-revenu bêta est en effet relié très simplement à la part des revenus du capital dans le revenu national, part qui sera notée alpha à travers la formule suivante. Alpha égale R multiplié par bêta, où R est le taux de rendement moyen du capital. Par exemple, si bêta égale 600% et R égale 5%, alors alpha égale R multiplié par bêta égale 30%. Autrement dit, si le patrimoine représente l'équivalent de 6 années de revenu national dans une société donnée, et si le taux de rendement moyen du capital est de 5% par an, alors la part du capital dans le revenu national est de 30%. La formule alpha égale R multiplié par bêta est une pure égalité comptable. Elle s'applique dans toutes les sociétés et à toutes les époques, par définition. Bien que tautologique, elle doit pourtant être considérée comme la première loi fondamentale du capitalisme, car elle permet de relier de façon simple et transparente les trois concepts les plus importants pour l'analyse du système capitaliste, le rapport capital-revenu, la part du capital dans le revenu et le taux de rendement du capital. Le taux de rendement du capital est un concept central de nombreuses théories économiques, en particulier dans l'analyse marxiste, avec la thèse de la baisse tendancielle du taux de profit, prédiction historique dont nous verrons qu'elle s'est révélée fort erronée, même si elle est porteuse d'une intuition intéressante. Ce concept joue également un rôle central dans toutes les autres théories. Dans tous les cas, le taux de rendement du capital mesure ce que rapporte un capital au cours d'une année, quelle que soit la forme juridique que prennent ses revenus, profits, loyers, dividendes, intérêts, royalties, plus-values, etc., exprimés en pourcentage de la valeur du capital investi. Il s'agit donc d'une notion plus large que celle de taux de profit et beaucoup plus large que celle de taux d'intérêt, même si elle les englobe toutes les deux. Les intérêts représentent une forme très particulière de revenus du capital et beaucoup moins représentatifs, par exemple, que les profits, les loyers ou les dividendes, qui constituent des masses beaucoup plus importantes que les intérêts, compte tenu de la composition moyenne du capital. Le taux d'intérêt, qui en outre varie énormément suivant l'identité de l'emprunteur, n'est donc pas représentatif du taux moyen de rendement du capital et lui est souvent nettement inférieur. Cette notion nous sera surtout utile pour analyser l'actif très spécifique que constitue la dette publique. Évidemment, le taux de rendement peut varier énormément suivant les types d'investissements et de placements. Certaines entreprises peuvent générer des taux de rendement supérieurs à 10% par an, voire bien davantage, alors que d'autres font des pertes, taux de rendement négatif. Le taux de rendement moyen des actions atteint 7-8% sur longue période dans de nombreux pays. Les placements immobiliers et obligataires ne dépassent souvent pas les 3-4% et le taux d'intérêt réel sur la dette publique est parfois plus faible encore. La formule alpha égale R multiplié par bêta ne nous informe pas sur ces subtilités, mais elle nous indique comment ces trois notions sont reliées les unes aux autres, ce qui permet déjà de cadrer utilement les débats. Par exemple, dans les pays riches des années 2010, on constate que les revenus du capital, profits, intérêts, dividendes, loyers, etc., gravitent généralement autour de 30% du revenu national. Avec un rapport patrimoine-revenu de l'ordre de 600%, cela signifie que le taux de rendement moyen du capital est d'environ 5%. Concrètement, le revenu national d'environ 30 000 euros par habitant, actuellement en vigueur dans les pays riches, se décompose approximativement en 21 000 euros de revenus du travail, 70%, et 9 000 euros de revenus du capital, 30%. Chaque habitant possède un patrimoine moyen de 180 000 euros et le revenu du capital de 9 000 euros par habitant et par an qu'il reçoit correspond donc à un rendement moyen de 5% par an. Là encore, il ne s'agit que de moyennes. Certaines personnes touchent des revenus du capital très supérieurs à 9 000 euros par an, alors que d'autres n'en touchent aucun et se contentent de verser des loyers à leurs propriétaires ou des intérêts à leurs créanciers. Il existe en outre des variations non négligeables entre pays. sans compter que la mesure de la part des revenus du capital soulève des difficultés pratiques et conceptuelles importantes, car il existe des catégories de revenus, en particulier les revenus d'activité non salariée ou le revenu entrepreneurial, qu'il est souvent difficile de décomposer précisément entre travail et capital. Cela peut parfois fausser les comparaisons. Dans ces conditions, la méthode la moins imparfaite permettant de mesurer la part du capital peut être d'appliquer un taux de rendement moyen plausible au rapport capital-revenu. Nous reviendrons de façon détaillée dans la suite de ce livre sur ces questions délicates et essentielles. À ce stade, les ordres de grandeur donnés plus haut, bêta égale 600%, alpha égale 30%, R égale 5%, peuvent être considérés comme des points de repère utiles. Pour fixer les idées, on peut aussi noter que le taux de rendement moyen de la terre dans les sociétés rurales est typiquement de l'ordre de 4-5%. Dans les romans de Jane Austen et de Balzac, le fait que la rente annuelle apportée par un capital terrien ou d'ailleurs par des titres de dette publique soit égale à environ 5% de la valeur de ce capital, ou bien encore que la valeur d'un capital corresponde à environ 20 années de rente annuelle, est une évidence, à tel point qu'ils omettent souvent de le préciser explicitement. Chaque lecteur sait bien qu'il faut un capital de l'ordre de 1 million de francs pour produire une rente annuelle de 50 000 francs. Pour les romanciers du 19e siècle, comme pour leurs lecteurs, l'équivalence entre patrimoine et rente annuelle va de soi, et l'on passe en permanence d'une échelle de mesure à l'autre, sans autre forme de procès, comme si l'on utilisait des registres de synonymes parfaits, ou deux langues parallèles connues de tous. On retrouve ce même type de rendement, environ 4-5% pour l'immobilier en ce début de 21e siècle, parfois un peu moins en particulier quand les prix ont beaucoup monté, sans que les loyers les aient totalement suivis. Par exemple, au début des années 2010, un grand appartement parisien d'une valeur de 1 million d'euros se loue souvent pour à peine plus de 2500 euros par mois, soit 30 000 euros de valeur locative annuelle, ce qui correspond à un rendement annuel de seulement 3% par an du point de vue du propriétaire. Cela représente tout de même une somme considérable à débourser pour un locataire ne disposant que du revenu de son travail. On lui souhaite un salaire élevé et un revenu appréciable pour le détenteur. La mauvaise nouvelle, ou la bonne, c'est selon, et qu'il en a toujours été ainsi, et même que ce type de loyer tend généralement à augmenter pour se rapprocher d'un rendement locatif de l'ordre de 4% par an, ce qui correspond dans l'exemple choisi ici à environ 3 000-3 500 euros de loyer mensuel, soit 40 000 euros de valeur locative annuelle. Il est donc probable que le loyer de ce locataire augmente à l'avenir. Ce rendement locatif annuel peut en outre être complété pour le propriétaire par une éventuelle plus-value à long terme. On retrouve ce même type de rendement, parfois un peu plus élevé, pour des appartements plus petits. Un appartement valant 100 000 euros peut rapporter un loyer de 400 euros par mois, soit près de 5 000 euros par an, 5%. Détenir un tel bien et choisir de l'habiter peut également permettre d'économiser un loyer équivalent et de consacrer la somme à d'autres usages, ce qui revient au même. Pour ce qui concerne le capital investi dans des sociétés, plus risquées par nature, le rendement moyen est souvent plus élevé. La capitalisation boursière des sociétés cotées dans les différents pays représente généralement entre 12 et 15 années de bénéfices annuels, ce qui correspond à un taux de rendement annuel, généralement avant impôt, compris entre 6% et 8%. La formule alpha égale R multiplié par bêta permet d'analyser l'importance du capital au niveau d'un pays dans son ensemble, ou même de la planète tout entière. Mais elle peut aussi être utilisée pour étudier les comptes d'une entreprise particulière. Par exemple, considérons une entreprise utilisant un capital, bureau, équipement, machine, d'une valeur de 5 millions d'euros et réalisant une production annuelle de 1 million d'euros, qui se partage entre 600 000 euros de masse salariale et 400 000 euros de profit. Le rapport capital-production de cette société est bêta égale 5. Son capital représente l'équivalent de 5 années de production. La part du capital dans sa production est alpha égale 40% et le taux de rendement de son capital est R égale 8%. Imaginons une autre compagnie utilisant moins de capital, 3 millions d'euros, mais réalisant la même production, 1 million d'euros, en utilisant plus de travail. 700 000 euros de salaire, 300 000 euros de profit. Pour cette société, on a donc bêta égale 3, alpha égale 30%, R égale 10%. La seconde entreprise est moins intensive en capital que la première, mais elle est plus profitable. Le taux de rendement de son capital est sensiblement supérieur. Dans tous les pays, les grandeurs bêta, alpha et R varient fortement selon les entreprises. Certains secteurs sont plus intensifs en capital que d'autres. La métallurgie et l'énergie sont plus intensives en capital que le textile ou l'agroalimentaire, et l'industrie est plus intensive que les services. Il existe aussi des variations significatives parmi les entreprises d'un même secteur, suivant les choix de techniques, de production et de positionnement sur le marché. Les niveaux atteints par bêta, alpha et R dans tel ou tel pays dépendent également de l'importance prise par l'immobilier d'habitation d'une part et par les ressources naturelles d'autre part. Il convient d'insister sur le fait que la loi alpha égale R multiplié par bêta ne nous dit pas comment sont déterminées ces trois grandeurs, et en particulier comment est déterminé le rapport capital-revenu au niveau d'un pays, rapport qui mesure en quelque sorte l'intensité capitalistique d'une société donnée. Pour avancer dans cette direction, il nous faudra introduire d'autres mécanismes et d'autres notions, en particulier le taux d'épargne et d'investissement et le taux de croissance. Cela nous conduira à la deuxième loi fondamentale du capitalisme, selon laquelle le rapport bêta d'une société est d'autant plus élevé que son taux d'épargne est important et que son taux de croissance est faible. Nous verrons cela dans les prochains chapitres. À ce stade, la loi alpha égale R multiplié par bêta nous indique simplement que quelles que soient les forces économiques, sociales, politiques déterminant les niveaux pris par le rapport capital-revenu bêta, la part du capital alpha et le taux de rendement R, ces trois grandeurs ne peuvent pas être fixées indépendamment les unes des autres. Conceptuellement, il existe deux degrés de liberté, mais pas trois. La comptabilité nationale, une construction sociale en devenir. Les concepts essentiels de production et de revenus, de capital et de patrimoine, de rapport capital-revenu et de taux de rendement du patrimoine étant maintenant posés, il est grand temps de commencer à examiner plus précisément comment ces notions abstraites peuvent être mesurées et ce que ces mesures nous apprennent au sujet de l'évolution historique de la répartition des richesses dans les différentes sociétés. Nous allons brièvement résumer les principales étapes de l'histoire de la comptabilité nationale, puis nous présenterons les grandes lignes de transformation de la répartition mondiale de la production et du revenu, ainsi que l'évolution des taux de croissance démographique et économique depuis le XVIIIe siècle, évolution qui jouera un rôle essentiel pour la suite de l'analyse. Ainsi que nous l'avons déjà noté dans l'introduction, les premières tentatives de mesure du revenu national et du capital national remontent à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Autour de 1700, plusieurs estimations isolées voient le jour, indépendamment, semble-t-il, au Royaume-Uni et en France. Il s'agit notamment des travaux de William Petty, 1664, et de Gregory King, 1696, pour l'Angleterre, et de Bois-Guilbert, 1695, et de Vauban, 1707, pour la France. Ces estimations concernent autant le stock de capital national que le flux annuel de revenus national. En particulier, l'un des premiers objectifs de ces travaux est de calculer la valeur totale des terres, de loin la plus importante source de richesse dans les sociétés agraires de l'époque, tout en reliant ce patrimoine foncier au niveau de la production agricole et de la rente foncière. Il est intéressant de noter que ces auteurs poursuivent souvent un objectif politique bien précis, généralement sous forme d'un projet de modernisation fiscale. En calculant le revenu national et le patrimoine national du royaume, ils entendent montrer à leur souverain qu'il est possible de lever des recettes considérables avec des taux relativement modérés, pour peu que l'on prenne en compte l'ensemble des propriétés et des richesses produites, et que l'on applique ces impôts à tous, et en particulier aux propriétaires fonciers, aristocrates ou non. Cet objectif est évident dans « Le projet de dîme royale » publié par Vauban, mais c'est tout aussi clair dans les textes de Bois-Guilbert et de Gregory King, c'est moins net chez William Petty. De nouvelles tentatives de mesure de ce type sont réalisées à la fin du XVIIIe siècle, en particulier autour de la Révolution française, avec notamment les estimations de la « richesse territoriale du Royaume de France » publié par Lavoisier en 1791 et portant sur l'année 1789. Et, de fait, le système fiscal qui se met alors en place, fondé notamment sur la fin des privilèges de la noblesse et sur une taxe foncière touchant l'ensemble des propriétés, est largement inspiré par ces travaux qui sont abondamment utilisés pour estimer les recettes des nouveaux impôts. Mais c'est surtout au XIXe siècle que se multiplient les estimations du patrimoine national. Des années 1870 aux années 1900, Robert Giffen met régulièrement à jour ses calculs sur le stock de capital national du Royaume-Uni, qu'il compare à des estimations réalisées par d'autres auteurs dans les années 1800-1810, en particulier par Colquhoun. Giffen s'émerveille du niveau considérable atteint par le capital industriel britannique comme par les actifs étrangers depuis l'époque des guerres napoléoniennes, incomparablement plus élevé que toutes les dettes publiques léguées par ces mêmes guerres. Les estimations de la fortune nationale et de la fortune privée, publiées en France à la même époque par Alfred de Fauville, puis par Clément Colson, participent du même émerveillement face à l'accumulation considérable du capital privé au XIXe siècle. La prospérité des patrimoines privés dans les années 1870-1914 est une évidence qui s'impose à tous. Pour les économistes de cette époque, il s'agit de la mesurer, de la jauger, et bien sûr, de comparer les pays entre eux. La rivalité franco-anglaise n'est jamais très loin. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les estimations du stock de patrimoine retiennent d'ailleurs beaucoup plus l'attention que celles du flux de revenus ou de production et sont, de fait, nettement plus nombreuses au Royaume-Uni et en France, ainsi qu'en Allemagne et aux États-Unis et dans les autres puissances industrielles. À cette époque, être un économiste signifie avant toute chose être en mesure d'estimer le capital national de son pays. Il s'agit presque d'un rite initiatique. Il faut toutefois attendre l'entre-deux-guerres pour que des comptes nationaux soient établis sur une base annuelle. Auparavant, il s'agissait toujours d'estimations portant sur des années isolées, souvent distantes d'au moins une dizaine d'années, comme les calculs de Giffen sur le capital national du Royaume-Uni au XIXe siècle. Dans les années 1930-1940, grâce à l'amélioration des sources statistiques primaires, on voit l'émergence des premières séries annuelles de revenus nationaux, remontant généralement jusqu'au début du XXe siècle ou aux dernières décennies du XIXe siècle. Elles sont établies pour les États-Unis par Kuznets et Kendrick, pour le Royaume-Uni par Bowley et Clark, et pour la France par Duguay de Bernonville. Puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les administrations économiques et statistiques prennent la suite des chercheurs et commencent à s'atteler à la confection et la publication de séries annuelles officielles de produits intérieurs bruts et de revenus nationaux. Ces séries officielles se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Par comparaison à l'avant-première guerre mondiale, les préoccupations ont cependant changé du tout au tout. À partir des années 1940-1950, il s'agit avant tout de répondre au traumatisme de la crise des années 1930, au cours de laquelle les gouvernements ne disposaient pas d'estimations annuelles fiables du niveau de production. Il faut donc mettre en place des outils statistiques et politiques permettant de piloter au plus près l'activité économique et d'éviter que la catastrophe ne se reproduise. D'où l'insistance sur des séries annuelles, voire trimestrielles, portant sur les flux de production et de revenus. Les estimations du stock du patrimoine national, si prisé jusqu'en 1914, passent au second plan, et ce d'autant plus que le chaos économique et politique des années 1914-1945 en a obscurci le sens. En particulier, les prix des actifs immobiliers et financiers sont tombés à des niveaux extrêmement bas, à tel point que le capital privé semble avoir disparu. Dans les années 1950-1970, période de reconstruction, on cherche surtout à mesurer la formidable croissance de la production dans les différentes branches industrielles. À partir des années 1990-2000, les comptes de patrimoine reviennent au premier plan. Chacun sent bien que l'on ne peut pas analyser le capitalisme patrimonial du début du XXIe siècle avec les outils des années 1950-1970. Les instituts statistiques des différents pays développés, en collaboration avec les banques centrales, se mettent alors à établir et à publier des séries annuelles cohérentes portant sur les stocks d'actifs et de passifs détenus par les uns et les autres, et non plus seulement sur les flux de revenus et de production. ces comptes patrimoniaux demeurent très imparfaits. Par exemple, le capital naturel et des dommages causés à l'environnement sont très mal pris en compte. Mais il s'agit d'un réel progrès par rapport aux comptes de l'après-guerre où l'on se souciait uniquement de mesurer la production et son accroissement sans limite. Ce sont ces séries officielles que nous utilisons dans ce livre pour analyser le patrimoine moyen par habitant et le rapport capital-revenu en vigueur actuellement dans les pays riches. De cette brève histoire de la comptabilité nationale, il ressort une conclusion claire. Les comptes nationaux sont une construction sociale, en perpétuelle évolution, reflétant toujours les préoccupations d'une époque. Les chiffres qui en sont issus ne doivent pas être fétichisés. Quand on dit que le revenu national d'un pays donné est de 31 000 euros par habitant, il est bien évident qu'un tel chiffre, comme toutes les statistiques économiques et sociales, doit être considéré comme une estimation, une construction, et non une certitude mathématique. Simplement, il s'agit de la meilleure estimation dont nous disposons. Les comptes nationaux constituent la seule tentative systématique et cohérente d'analyse de l'activité économique d'un pays. Ils doivent être considérés comme un outil d'analyse, limité et imparfait, une façon de mettre ensemble et d'ordonner des données très disparates. Dans tous les pays développés, les comptes nationaux sont actuellement établis par les administrations économiques et statistiques et les banques centrales, en rassemblant et confrontant l'ensemble des bilans et comptes détaillés des sociétés financières et non financières, ainsi que de multiples autres sources et enquêtes statistiques. Nous n'avons aucune raison, a priori, de penser que les fonctionnaires concernés ne font pas de leur mieux pour traquer les incohérences entre les différentes sources et aboutir aux meilleures estimations possibles. À condition de les utiliser avec précaution et esprit critique, et de les compléter lorsqu'ils sont erronés ou défaillants, par exemple concernant les paradis fiscaux, les comptes nationaux constituent un outil indispensable pour estimer les masses globales de revenus et de patrimoine. En particulier, nous verrons dans la deuxième partie de ce livre qu'il est possible, en rassemblant et en comparant minutieusement les estimations du patrimoine national réalisées par de nombreux auteurs du XVIIIe au début du XXe siècle, et en les reliant aux comptes de patrimoine officiels de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, d'aboutir à une analyse cohérente de l'évolution historique du rapport capital-revenu. Outre ce manque de perspective historique, l'autre grande limite des comptes nationaux officiels est évidemment qu'ils ne se préoccupent par construction que de masse et de moyenne, et non de répartition et d'inégalité. D'autres sources doivent être mobilisées pour répartir les revenus et les patrimoines et étudier les inégalités. Ce sera l'objet de la troisième partie. Ainsi complétés, dans le sens de l'histoire, des patrimoines et des inégalités, les comptes nationaux constituent un élément essentiel des analyses présentées dans ce livre.